Ah, l'adolescence, un âge difficile.
Assez fréquent chez les préadolescents. Elle en a tous les symptômes. Hyperactivité, saut d'humeur...
Écoute, je suis occupée à profiter de mon adolescence, alors fiche-moi la paix et fais la même chose.
Bah, oui, mais parfois on change à l'adolescence.
Les ados, ça se lève pas tôt, normalement.
Il y a tout du monde merveilleux des adolescentes.
C'est un miracle. Un adolescent qui dit non à la drogue et dit oui à l'instruction, c'est un miracle.
So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques des Canal B.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien sûr Canal B. On espère que vous allez bien, nous ça va.
Mais nous, c'est qui? On ne s'est même pas présenté.
Nous, c'est les élèves de l'EREA Magda Hollander Lafont.
C'est quoi un EREA? Il faut l'expliquer aux auditeurs et auditrices.
C'est un établissement régional d'enseignement adapté.
Et qu'est-ce qu'on y fait?
On nous forme à des métiers qu'on va faire après nos CAP.
Quel métier?
Pour nous, c'est maçon et maçonne. Carleur et carleuse mosaïque.
Et pourquoi on parle à la radio aujourd'hui?
Parce que l'on a préparé une émission avec un invité.
Oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Insa Sané, écrivain, poète, slameur et comédien franco-sénégalais.
Il est né à Dakar et il est arrivé en France à 6 ans, à Sarcelles, en banlieue parisienne.
Il est notamment l'auteur d'une série de romans regroupés sous le titre « Comédie urbaine ».
Nous, on a lu Carambolage.
Bonjour Insa Sané, comment allez-vous?
Bonjour tout le monde, je suis trop content d'être là parmi vous. Je suis content d'être invité pour la deuxième fois sur cette radio et d'avoir partagé cette matinée et d'être interviewé par des petits journalistes en herbe qui ont l'air bien curieux.
Comment avez-vous vécu votre arrivée en France et notamment à Sarcelles?
Alors, mon arrivée en France était assez traumatisant, dépaysant déjà. Ce que j'explique souvent, c'est que quand je vivais au Sénégal, moi je suis né au Sénégal, et quand je vivais au Sénégal, les portes d'entrée n'existaient pas. Et j'ai découvert les portes d'entrée en arrivant en France. Ça a été un premier choc. Ensuite, il y a eu la neige, le froid, la grêle.
Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins, 8000.
J'aime pas trop beaucoup ça.
Il y a eu également cette culture qui est un peu différente du Sénégal parce que on vit beaucoup à l'intérieur en France alors que au Sénégal on est beaucoup à l'extérieur et l'hospitalité n'est pas la même non plus en France qu'au Sénégal, donc ça a été assez compliqué. Pendant longtemps je me suis dit que jamais je ne pourrais ni m'acclimater à la France ni devenir français.
Comment avez-vous vécu le racisme?
Bah, je pense que c'est quelque chose de désagréable à vivre. Alors, il faut pas confondre xénophobie et racisme. Le premier truc que j'ai connu quand j'étais petit, c'était la xénophobie. Ma première expérience, je devais avoir 6 ans et demi, voire 7 ans, même pas 7 ans. Non, 6 ans j'avais. Et, je m'étais un peu éloigné, de l'immeuble de chez mes parents. Et je suis passé à côté d'une maison, d'un pavillon. Et des personnes, les habitants de cette personne sont sortis et m'ont agressé. Ils m'ont jeté dans les orties d'abord. Ensuite, ils ont fait hurler leur chien devant ma figure. Puis, ils m'ont craché à la figure avant de me traiter de sale négro. Je connaissais pas ce terme, je l'ai appris ici. Ça, c'est de la xénophobie. Bien sûr que j'ai été heurté, j'ai tellement eu peur et j'ai tellement été humilié, je me suis tellement senti mal que j'ai pas osé en parler à mes parents et j'aurais dû le faire pour qu'on puisse aller porter plainte parce que c'est des choses qui sont anormales. Agresser un enfant déjà de 6 ans, c'est anormal, mais en plus faire preuve d'autant de haine vis-à-vis d'un gamin qui débarque et qui sait rien de ce pays, c'est encore plus atroce. Ça, c'est de la xénophobie. Le racisme, je l'ai vécu plus tard, je l'ai vécu après, à partir de l'adolescence avec les contrôles d'identité. Le racisme, c'est à la fois la xénophobie et c'est le fait d'écraser une population, une minorité, et l'empêcher d'avoir les mêmes droits, de pouvoir s'épanouir autant que les autres populations plus nombreuses, voire les populations dirigeantes. Donc le racisme, c'est les contrôles d'identité. Le racisme, ça va être le fait de pas avoir les mêmes chances pour trouver du travail, ne pas pouvoir rentrer en boîte de nuit, ne pas pouvoir rentrer dans certains restaurants, dans certains lieux.
Moi, ce que je vous propose comme entrée, je fais des fixations, je sais, devant les portes d'entrée. Pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées, avec 100 kilos de muscles à la clé. Devant trop de barbacs, c'est vrai, je fais des rejets, mais je peux dire que je maîtrise le sujet. Les portes, je connais, j'en ouvre tous les jours, mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour. Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil à l'entrée des boîtes.
Veuillez entrer, monsieur, votre présence nous flatte.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Devant les boîtes, moi j'y suis toujours à la merci d'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit
oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être.
C'est comme ça.
Possible.
Oui.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être.
Être stigmatisé, ne pas pouvoir bénéficier des mêmes chances au logement, ça c'est du racisme. En fait, le racisme, c'est quand on impose à un groupe de vivre pas tout à fait comme... pas du tout, comme de pas leur donner les mêmes chances que les que le groupe dirigeant. Donc, il faut jamais confondre racisme et xénophobie. Sinon, c'est de la novlangue. En France, où je sais que depuis un certain temps, on parle de racisme anti-blanc, ce qui n'existe pas du tout, parce que je ne vois pas un noir qui peut imposer à un blanc de ne pas avoir de travail, de ne pas rentrer dans une boîte de nuit, de ne pas avoir les mêmes chances pour avoir un emploi, de ne pas avoir les mêmes chances pour avoir un logement. Donc, le racisme, c'est tout autre chose que la xénophobie.
Très bien, merci. Histoire très touchante. On a vu l'une de vos interviews dans laquelle vous parliez du président sénégalais Léopold Senghor. Pourriez-vous nous en dire ce qui a changé dans sa politique, ce qui a changé votre vie ?
Déjà, ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai dû me retrouver en France. Parce que mon père a eu des soucis politiques à cause de Senghor et il a dû venir s'installer en France pour pas avoir d'autres problèmes et en même temps pour nous permettre d'avoir une vie meilleure. Depuis la France, on voit Senghor comme un poète, un démocrate, chose qui n'a pas été un poète africain. En tout cas, il a jamais été un poète africain. C'est un poète tout à fait occidental. Il écrit dans Femme noire, femme nue, la description qu'il fait de la femme noire, c'est le regard d'un blanc sur une femme noire, pas du tout le regard d'un homme noir sur une femme noire, parce que l'homme noir sait que la femme noire, elle est ni fragile, elle a pas besoin d'être protégée, au contraire, faut se protéger d'elle. Et puis en même temps, c'était pas du tout un démocrate, c'était plutôt un tyran qui a mis en prison pas mal d'opposants. Il menait une politique pro-occidentale et pro-libérale, donc les communistes étaient soit emprisonnés, soit exécutés. Les panafricanistes ont dû s'exiler. C'est celui également qui a empêché, avec Oufouette Boigny, qui a empêché que tout l'ouest de l'Afrique soit uni, que soit uni sous un pays qui aurait été appelé le Soudan. Donc ce côté hyper romantique qu'on a de Senghor, on l'a en France parce qu'on a cultivé ce mythe pour imposer un tyran au sein d'une nation qu'on voulait contrôler.
Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, baby aimerait sa pie. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, je noie à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si j'ai déjà vu la belle.
Dans la même interview, vous invoquiez votre maladie. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors oui, ça me dérange pas. J'ai passé un cap depuis un certain temps, donc j'accepte de parler de ce handicap. Quand j'ai eu un an et demi, j'ai eu la polio, donc je me suis retrouvé gravement malade. Après être revenu à moi, déjà les médecins étaient pas certains que j'allais revenir à moi. Ensuite, quand je suis revenu à moi, les médecins ont dit que jamais plus je pourrais remarcher. me tenir debout. Et ma mère n'entendait pas leur verdict de cette oreille-là. Donc ma mère a tout fait pour que je remarche. Donc elle me faisait faire des exercices, elle m'obligeait à me tenir debout, elle me massait. Ça a duré très longtemps, je sais pas combien de temps. J'ai des vagues souvenirs de cette période-là. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai réussi à remarcher, mais j'ai gardé des séquelles de cette maladie, dont une jambe qui est plus courte que l'autre et plus mince que l'autre. Et j'ai dû affronter déjà ma mère qui ne voulait pas qu'on me traite comme un handicapé. Seulement, j'avais tout l'accoutrement de l'handicapé puisque j'étais obligé de porter, elle m'obligeait à porter des chaussures orthopédiques, à passer les mercredis à l'hôpital ou chez le médecin ou chez le kiné. Et j'ai mis beaucoup de temps, et puis aussi les épisodes où comme je suis handicapé, elle a peur que j'aille à la piscine tout seul, donc non, t'as pas le droit d'aller avec tes copains à la piscine. Et puis à un moment donné, quand je suis arrivé en sixième, je me suis dit non, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de jouer au foot, j'ai envie de courir avec les autres, j'ai pas envie qu'on ne voit que ma chaussure orthopédique. Donc j'ai arrêté avec et les kinés et les médecins tous les mercredis et puis les chaussures orthopédiques. Donc j'ai dû me reconstruire et aussi me construire avec ma maladie et essayer d'exister aux yeux des autres en cachant cette maladie. Pendant très longtemps, je l'ai caché, ce handicap.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le slam?
J'ai ma version à moi de ce que c'est que le slam. C'est pas la version de tout le monde. Il y a d'autres slameurs qui auront des définitions différentes. Pour moi, le slam, c'est s'affranchir des règles, connaître les règles, mais s'en affranchir. C'est éviter les formats. Le slam, quand le slam apparaît, on a le rap qui est au top ou dans les années 90 et qui devient très formaté avec couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Bim, 3 minutes 30, c'est bon, on arrête. Le slam, on s'en fout qu'il n'y ait pas de refrain. On peut même s'affranchir de la musique. Ce qui est important, c'est l'interprétation, d'abord.
Pourquoi avez-vous voulu devenir écrivain?
J'ai jamais voulu être écrivain. Je voulais avoir un métier de beau gosse. Je voulais être pilote. Ouais, je suis pilote. C'est beaucoup plus beau que écrivain qui fume la pipe, qui va dans son chalet pour écrire. Non, non. Je voulais être tout autre chose que qu'écrivain. Mais très tôt, j'ai commencé à écrire. Et sans m'en rendre compte, en faisant des concerts, en faisant des concerts d'abord, je suis devenu chanteur. En écrivant des chansons pour moi et pour d'autres personnes, j'ai cultivé ce goût pour l'écriture. Et puis progressivement, j'en suis venu à écrire mon livre. Mais je me considérais pas tout à fait comme un écrivain jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'est mon métier. Je le faisais surtout par plaisir, surtout parce que je me sentais bien en le faisant. Et puis aussi, les applaudissements, c'est quelque chose de génial de se faire applaudir après son travail. Vos profs, quand ils font un super cours, je suis sûr que vous les applaudissez pas. Et moi, j'ai la chance, quand avant de descendre de scène, on m'applaudit.
Comment avez-vous débuté et à quel âge?
J'ai commencé à écrire quand j'avais 8 ans. Parce que j'avais découvert deux livres fantastiques qui m'ont donné, qui m'ont déjà fait poser cette question, comment on fait pour écrire aussi bien? Ça a été Les Contemplations de Victor Hugo et Les Châtiments. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire super bien, et j'ai commencé à écrire des poèmes à l'âge de 8 ans, et puis ça ne m'a jamais quitté.
Comment sont payés les écrivains?
Ils sont payés de différentes manières. Alors d'abord, on produit un manuscrit, on écrit un manuscrit. Ce manuscrit, la plupart du temps, on va l'envoyer à un éditeur. Si l'éditeur est intéressé par le manuscrit, il va te proposer un contrat. Sur ce contrat, en France, même dans les pays anglo-saxons, on te propose une avance. c'est pas tout à fait la même chose chez les anglo-saxons. Chez les anglo-saxons, ils te payent pour un certain tirage de livres. Ils vont dire, bon, je vais tirer 1000 exemplaires, tu seras payé tant. En France, on te propose une avance. Quand t'es un jeune auteur, quand c'est ton premier livre, bah, l'avance, elle est pas très grosse. Ça va être entre, des fois, 500 et 2000 euros, 2500, maxi 3000 euros. Et puis, plus tu prends de la bouteille, plus tes avances sont importantes. Donc t'as d'abord l'avance. L'avance, faut savoir que ce n'est qu'une avance. C'est-à-dire que tant que t'as pas vendu le nombre de bouquins proportionnel à ton avance, eh ben tu seras pas payé plus. À partir du moment où t'as remboursé ton avance, eh ben tu touches de l'argent en plus sur les ventes de livres. Le pourcentage sur les ventes de livres, ça varie encore. Ce qui est acceptable, c'est minimum 5%. Minimum 5% du prix du livre. Et ça peut être jusqu'à 15% pour les auteurs qui sont très bons, voire un peu plus pour les très grandes stars du livre. Donc c'est un pourcentage sur le prix de vente du livre. Quand on te fait une avance, l'éditeur, il peut pas te réclamer de rembourser l'avance. Il prend un risque en te proposant cette avance. Ensuite, en tant qu'écrivain, tu donnes des conférences et la plupart des conférences sont payées. Tu mènes des ateliers, tu fais des rencontres. Il y a une charte pour légiférer pour que le tarif minimum quand tu fais une rencontre, c'est pour 2 heures de rencontre, 2 ou 3 heures de rencontre, ça va être 310 euros pour 2 ou 3 heures de rencontre. Et pour une journée de rencontre, c'est-à-dire 4 heures de rencontre, entre 4 et 5 heures de rencontre, eh ben tu vas être payé 520, je crois, euros, 520 ou 530 euros. Donc ça te fait également des revenus en plus. Donc il y a pas mal de manières de gagner de l'argent. Et puis, si t'as un peu de chance et que ton livre est assez bon, il peut être adapté au cinéma ou au théâtre et ça te fait encore gagner de l'argent. Et puis, il peut être acheté par un éditeur à l'étranger qui va le traduire dans une autre langue. Et là encore, tu vas toucher des revenus.
D'où est venue votre inspiration pour la musique ?
Inspiration, c'est un mot qui est un peu surfait. Ça dépend de ce qu'on met dans le sens inspiration. J'ai jamais été inspiré. J'ai grandi dans les années 90. J'étais ado dans les années 80. Et la musique des années 80, surtout à la radio française, comment le dire ? Sans utiliser de gros mots, c'était de la merde. Donc, franchement, c'est pas ça du tout qui m'a donné envie de faire de la chanson, parce que j'étais écœuré par ce que je pouvais écouter dans le top 50, dans des radios grand public, etc. Donc c'est surtout l'envie d'exister qui m'a donné la motivation de monter un groupe et de chanter. C'est pouvoir à mon tour à dire que j'existe et que les gens entendent ce que j'ai à dire.
Canal B, Radio Curieuse.
Je n'ai pas compris l'objectif du livre Carambolage. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors, Carambolage, c'est l'histoire de Philidier et de Christelle. Et Philidier et Christelle sont dans le même lycée. Ils se fréquentent pas trop parce que Philidier vient de la cité et elle, Christelle, a grandi et vit dans le centre-ville. Ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même parcours, ils ne vivent pas les mêmes réalités alors qu'ils vivent dans le même pays. Ils sont obligés de faire un devoir ensemble, un devoir d'économie ensemble et en groupe. Et il s'avère que normalement, ils devaient être 4 pour le groupe et finalement, ils se retrouvent que 2, Christelle et Philidier. Et ils ont rendez-vous chez Christelle pour faire leur devoir. L'objectif de ce livre, c'est raconter comment nos différences, raconter nos réalités, mais aussi raconter nos humanités. Qu'en vérité, chaque humain connaît ses souffrances, chaque humain traverse des épisodes pénibles, chaque humain aussi est capable de rire, de joie et surtout est capable d'aimer.
Pause musicale sur Canal B. On va écouter un morceau du prochain album d'Insassane.
qui sort prochainement. Le morceau s'appelle Paris et une reine et sa banlieue une couronne en featuring avec Fefe.
Paris, c'est la dame de fer, les grands boulevards pavés de bonnes intentions comme l'enfer. Elle s'habille de strass et de paillettes. Elle tape bavette avec les kairas et les zoulettes. Tu crois qu'elle te parle d'amour, mais tu te gourres. Ses baisers d'une nuit s'évanouissent le jour. Elle n'est que façade, mascarade et blush. Nous on se serre la ceinture, mais au moins on les cache. Pourtant, on la jalouse, ici c'est la loose. On n'a pas de flouze, seulement le blues. Un français approximatif, des danses instinctives, des accoutrements transgressifs, des chants de colère sur des musiques primitives, des rires qui montrent les gencives. On tague nos cœurs trop pleins, nos rêves trop grands sur des murs trop blancs. Wesh! Si cette bouffonne est une reine, c'est parce que la banlieue est une couronne. Paname est une reine, et la banlieue sa couronne. Paname est une reine, et la banlieue sa couronne. Paname est une reine, banlieue sa couronne. Paname est une âme de fer. Paname est une ville lumière. Paname est une reine, et la banlieue sa couronne. Mes yeux se posent sur les saisons, mais rien ne clinquant à l'horizon. Ici, la joie côtoie la tristesse. Entre baisers et cicatrices, l'ego devient pièce maîtresse. Et on tape le ballon et on joue sous les néons. Ambiance électrique à la lueur des pylônes. Du béton jusqu'aux racines, du goudron sur les branches. Pour atteindre les cimes, les jeunes poussent parmi les ronces. Insensé de confondre, boule de neige est cessée. Est-ce que la joie a cessé ou est-ce qu'elle s'est défenestrée? Le bonheur est en deuil au seuil de nos appartements. Les gosses portent les couleurs de leur département. Que tout le monde s'écarte. Prince de la ville dans le 9-4-9-4 du 7-7-9-5. Souverain jusque dans le 10. Paname est une reine, et la banlieue sa couronne. Paname est une reine, et la banlieue sa couronne. Paname est une reine, banlieue sa couronne. Paname est une âme de fer. Paname est une ville lumière. Paname est une reine, et la banlieue sa couronne.
On vient d'écouter un morceau du prochain album d'Insasane, Paris est une reine et sa banlieue une couronne, en featuring avec Fefe sur Canal B.
Pour préparer notre émission, on a travaillé sur des sujets qui nous intéressent.
On a eu envie de parler de l'égalité filles-garçons dans le sport.
On a identifié 5 problématiques.
Pour commencer, la visibilité des sportifs est moins importante.
C'est vrai qu'on voit moins de femmes à la télévision, des sports féminins, on voit moins, elles sont moins exposées, sauf dans le tennis. Dans le tennis, on a eu la chance d'avoir les sœurs Williams, Serena et Venus, qui ont contribué à ce que à démocratiser le tennis féminin, parce que de leur par leur charisme et aussi par leur parcours, eh ben les gens se sont attachés à elles. Mais effectivement, le foot, moi je regarde du foot féminin, j'adore, je trouve que c'est beaucoup plus technique que le foot. C'est moins physique, mais c'est beaucoup plus technique que le foot masculin. Et puis c'est agréable à voir. Il y a une énergie, on retrouve vraiment le foot. Presque plaisir des années 70, début des années 80.
Ensuite, il y a des préjugés sur leur capacité physique.
Ouais, bien sûr, mais ces préjugés font date. Hein. Le patriarcat ne date que d'il y a 8000 ans. Avant ça, c'était le matriarcat. D'ailleurs, les premières figures, les premières représentations de Dieu, les premières représentations divines, c'était des femmes. C'était des déesses, c'était Isis, c'était Vénus. On a plein d'images comme ça de femmes qui étaient des déesses avant qu'on rentre dans le patriarcat et qu'on soit dans des dieux masculins. On est tout le temps en train de préjuger de la faiblesse de la femme. Je vous garantis que ma toute première défaite en bagarre, c'était contre une fille. Elle m'a démoli, elle avait sa propre technique et sa technique c'était le piment au bout des doigts. Et elle me saute à la figure. Et on présume aussi un truc très simple. J'ai 2 enfants. Quand je les portais, je galérais à les porter. La mère de mes enfants, elle pouvait les porter comme ça pendant une heure sans problème. Et ça, ça ne s'explique pas. Donc, il ne s'agit pas de capacité réellement physique. Il s'agit aussi de ce que tu développes. Est-ce que si tu prends... j'ai pas honte de dire que la plupart des femmes nagent mieux que moi. Et pourtant, je suis un homme. Il y a plein de choses physiquement que je fais moins bien que la plupart des femmes. Et je suis un homme et j'en ai pas honte. Mais c'est comment on construit des mythes et comment on construit des raccourcis. Et bien entendu, on trouvera toujours des gens, des intégristes qui vont tout le temps nous dire « Oui, mais t'es un wokiste si tu dis ça. » Eh ben, tant mieux, je serai un wokiste en disant ça.
Sauf que ce ne sont pas les filles qui contrôlent mal leurs émotions dans le sport.
Les garçons s'insultent, se provoquent, voire se battent sur les terrains.
Ils cassent des choses quand ils perdent.
Même pendant leurs règles, les filles ne font pas ça.
Et en plus, elles sont moins bien payées.
Enfin, on pense qu'être actif peut faire changer les choses. Il ne faut pas juste des discours, il faut des actes.
Ouais, très bien, il faut des actes, mais je suis pas d'accord. Les filles aussi, les sportives aussi, elles laissent courir leurs émotions aussi, hein. Combien de tennis women cassent leurs raquettes quand elles sont fâchées, certaines ont pu dire des gros mots aussi en conférence de presse. Les filles, c'est comme les garçons, je vois pas de différence. Tant que tu laisses courir tes émotions, les mêmes émotions, la tristesse, c'est une émotion qu'on partage des hommes et des femmes, la colère, c'est une émotion qu'on partage des hommes et des femmes, la jalousie, la rancœur, c'est tout ce qui anime aussi l'esprit de compétition, là aussi, que ce soit les hommes et les femmes, et ça peut tourner aussi en bagarre chez les femmes aussi, hein. Vous regardez pas assez de sport féminin, hein, je vous assure. Mais il n'empêche que ces émotions-là, même si on suit le sport féminin, bah il y a bien eu l'agression d'une patineuse artistique par un couple de patineurs et de patineuses artistiques pour pas qu'elle gagne les Jeux Olympiques. Donc cette passion, ces délires ne touchent pas que le sport masculin, mais peut aussi dégénérer dans le sport féminin. Le problème, c'est l'excès. C'est pas les émotions le problème, c'est l'excès d'émotions le problème. Et puis, j'en reviens au fait d'être payé pareil. On vit aussi dans un fantasme, hein. La plupart des footballeurs sont pauvres. Il y a pas beaucoup de Neymar qui sont payés autant de milliers, centaines de milliers d'euros. La plupart sont payés très peu. Mais je pense aussi, moi je crois aux droits d'auteur. Je suis pas jaloux des gens qui gagnent plus que moi, etc. Je pense que ce sont des gens qui font rêver. Ce sont des gens qui apaisent aussi. Il y a une formule, une phrase qui dit le foot, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que au lieu de te révolter contre les différents gouvernements qui peuvent faire du tort, eh ben on te fait regarder du foot et t'oublies tous tes problèmes. Et c'est vrai que quand on regarde le sport, quand on est amoureux de sport, on oublie tous les autres problèmes. C'est comme quand on lit un livre, comme quand on va au cinéma, on oublie tous ses problèmes.
Canal B 94.0.
On a aussi eu envie de parler des relations familiales,
ouais,
entre les ados et les parents.
Ouais.
Il y a tes parents qui ont dû arrêter leurs études tôt et qui ne peuvent pas aider leurs enfants.
On ne comprend pas toujours quand nos parents nous poussent à travailler, c'est chiant.
Les adultes ne nous font pas assez confiance parfois.
Mais dans certains cas, c'est normal quand l'enfant fait trop de bêtises, comme par exemple mentir.
Et vous, Insasane, vous poussez vos enfants à travailler ?
Et vous les faites confiance ?
Alors, je suis un parent malheureusement, donc j'ai le sale rôle, hein, et je vais pas vous mentir. Dans la vie de tous les jours, je suis super cool. Mais avec l'instruction, l'école, je suis moins cool avec mes enfants. Je suis hyper exigeant vis-à-vis d'eux. J'essaye de les pousser et des fois, je suis maladroit. Par exemple, je suis très patient avec les enfants des autres, quand je suis dans des milieux scolaires avec des élèves, je suis hyper patient, hyper pragmatique dans la façon que j'ai à instruire et à donner des conseils pour que les élèves progressent. Je suis beaucoup moins patient avec mes propres enfants. C'est malheureusement une réalité, donc je suis pas sûr d'être un super parent à la cool avec une insigne de super prof parents, je suis beaucoup trop déjà. En fait, c'est pas qu'on vous fait pas confiance, c'est parce qu'on a peur. C'est la, malheureusement, la plupart des parents sont motivés par la peur. Ils ont peur que vous échouez, ils ont peur que vous soyez malheureux plus tard. Ils ont peur que vous soyez, parce que vous allez malheureusement être mis en compétition. On vit dans une société, en plus, que je réfute, mais malheureusement, je fonctionne aussi comme ça avec mes enfants, parce que vous allez être en compétition avec d'autres personnes pour le, sur le marché du travail. Vous allez être en compétition pour pouvoir vous épanouir dans une entreprise. Vous allez être en compétition pour dire, bah, moi, il y a ce poste-là que je vise, on est 10, qui va l'avoir? Donc, tout le temps, cette compétition qui est horrible. Et donc, on a tellement peur que, on est maladroit et on vous pousse peut-être trop au lieu de vous demander souvent, est-ce que vous êtes heureux? Peut-être que la vraie question, c'est, est-ce que vous êtes heureux? Mais malheureusement, même l'école est maladroite. À l'école, on ne vous note pas sur vos qualités intrinsèques. On ne note pas votre enthousiasme. On ne met pas de notes là-dessus. On ne note pas le fait que vous soyez, par exemple, que vous aidiez les autres, que vous soyez généreux. On vous note pas là-dessus. Pourtant, c'est des valeurs humaines. C'est sur ces valeurs-là qu'on vous juge en tant que personne dans la rue, dans la famille, etc. Donc, l'école aussi est maladroite parce que on vous forme aussi dans cette compétition en disant bah toi t'as 20, toi t'as 16, toi t'as 8, toi t'as 0. On est aussi dans cette maladresse là au lieu de cultiver d'abord ce que vous savez bien faire. Et peut-être que si on partait d'abord de ce que vous savez bien faire, peut-être que ce que vous savez moins bien faire, vous pourriez mieux l'exploiter. Peut-être.
Pas, ça vient ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas, ça fait dodo, dit papa, dit maman. Fais pas si, fais pas ça. Ah, tada, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampan tu tues. Fais pas si, fais pas ça. Ah, tada, prout, prout, cadet. À cheval sur mon bide, laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça. À dada, pour trop de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça. À dada, pour trop de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça. Atada pour trop de cadet, à cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la, la la la.
Alors Insa Sané, j'ai quelques questions à vous poser. J'espère que vous avez votre temps.
Ah, je prendrai tout le temps qu'il faut pour vous, monsieur.
Bien, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir comment est venue l'idée de créer votre groupe.
Le Soul Slam Band.
Ouais.
Alors, le Soul Slam Band, c'est un groupe, je crois, que j'ai créé en 2006 ou 2007. En 2006, et en fait, ça faisait des années que je rêvais de rapper avec un orchestre autour de moi, et pas juste d'un DJ. Et puis, comme je venais de quitter ma première maison de disques, ma première maison d'édition, mon premier label, et que je venais de signer chez Desch Music, j'ai eu plus de facilité à pouvoir faire ce que je veux dans la musique. Et c'est à ce moment-là que avec l'aide de mes nouveaux producteurs, on a réuni des musiciens que je connaissais par ailleurs. Certains, je les connaissais par ailleurs parce que je les avais rencontrés dans la scène musicale, ou je les avais rencontrés en studio d'enregistrement, je les avais rencontrés lors de concerts, et ils m'avaient impressionné. Donc on les a réunis, et puis en travaillant en studio sur mon album Du Plomb dans le Crâne, on en a gardé certains pour monter le groupe le Soul Slam Band, et on a pu faire des concerts tous ensemble et passer du bon temps, du très bon temps et du moins bon temps par moment.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Très bien. Après cette interview, Insasane, qui était captivante, j'ai quelques questions à vous poser moi-même. J'aurais une question surtout. Vous avez été écrivain, poète, slammeur, comédien. Mais est-ce que dans votre carrière, vous avez été pleinement satisfait de ce que vous avez fait? Et est-ce que vous avez pu vivre de ça?
Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre, je vais pas mentir, c'est plutôt agréable de pouvoir avoir du revenu par rapport à sa passion. Alors c'est pas vraiment une passion que j'ai pour ça. La seule passion que j'ai, c'est la scène, c'est être sur scène et être face au public. Donc c'est super agréable de pouvoir vivre de ce métier. Et oui, j'ai eu plein de moments de déception. Les premiers moments de déception, c'est quand ma première maison de disques ne me laissait pas faire la musique que je voulais faire, ne croyait pas en moi, n'investissait pas suffisamment sur moi. J'ai eu des déceptions parce que j'ai écrit sur certains albums et ces albums n'ont pas marché. Et j'étais super déçu parce que je m'étais beaucoup impliqué sur ces albums-là, des albums, des textes que j'ai écrits pour certains chanteurs ou certaines chanteuses qui, à mon sens, méritait d'être mieux connu. J'ai été parfois déçu par rapport à des collaborations, à des collaborateurs, avec des gens que j'aime beaucoup et qui ont chanté avec moi ou qui ont participé à certains projets avec moi. Et puis à un moment, bah, on regardait plus dans la même direction. Donc voilà, la déception, ça fait partie de la vie, mais il faut pas s'arrêter là. Le doute aussi, ça fait partie de la vie. Il y a plein de fois où je me suis dit, bah, j'en ai marre, j'arrête tout, je vais faire autre chose, c'est un métier trop difficile, c'est trop exigeant, c'est trop fatigant, c'est trop contraignant. Donc oui, c'est pas une longue route tranquille, c'est pas du plat. S'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments joyeux, il y a des moments de remise en question.
Et si vous aviez un conseil pour une personne qui veut faire la même chose que vous?
Mon fils chante à l'opéra. Et quand il a décidé, quand il a voulu tout petit commencer à chanter, j'ai eu un peu peur. Si vous voyez, hein, les parents, ils sont toujours nourris par la peur, on dirait. Et je lui ai dit, ouais, mais s'il te plaît, fiston, tu vois comment papa il vit, il est tout le temps en voyage. Papa, quand il parle longtemps en voyage, en tournée, bah tu lui manques. Et puis le truc, c'est que c'est un métier qui est difficile, où il y a beaucoup de monde et c'est très difficile de faire sa place, etc. T'es sûr que t'as envie de faire ça? Tu préférais pas faire autre chose et tout? Bon, il est heureux quand il chante, donc je le laisse faire et puis je j'interviens pas dans le plaisir qu'il a dans sa carrière. Après, des conseils, malheureusement, tous les conseils que je peux donner sonneront faux, pour la simple et bonne raison que chacun a sa singularité. Ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour les autres. Le seul truc, c'est de croire en soi, d'essayer de bosser, de savoir que il faut bosser beaucoup, énormément, et qu'à un moment donné, on fera les bonnes rencontres. Et ce sont ces rencontres qui vont nous permettre de passer des caps et de pouvoir avoir le maximum de projets. On réussit jamais seul, c'est tout.
Nouvelle pause musicale dans l'émission des élèves de l'EREA Magda Hollander Lafont de Rennes. On écoute la rennaise Odonella, Changer, il fallait.
Ils m'ont eu, ce négro, ils m'ont eu. Si j'avais su, j'aurais écouté mes vieux. Mais saigner, il fallait, je serais pas là si j'étais pas déçu. Changer, il fallait, on tient à l'écart, brevet déchu. Ils m'ont eu, ce négro, ils m'ont eu. Si j'avais su, j'aurais écouté mes vieux. Mais saigner, il fallait, je serais pas là si j'étais pas déçu. Changer, il fallait, me tiens à l'écart, brebis déchu. Je comprends pas que tu te poses pas de questions. Tu te laisses quitter, t'as pas de direction. Subis la vie comme malédiction. Recherche le respect des miens. Pourquoi je lève un mauvais garçon? Où sont les réponses à nos questions? Respect les tiens pour pas se ressentir. La vérité, c'est trop de confession. Ils m'ont eu, ce n'est pas, ils m'ont eu. Si j'avais su, j'aurais écouté mes vieux. Je les ai cru, ce n'est gros.
Je parle dans mes textes, essaye plutôt de comprendre le contexte. J'avoue, je cherche une centaine de prétextes. peine à expirer. Aujourd'hui plus grand chose me déplaît. Foncé dans le vortex. Non non plus grand chose ne me déplaît. Ils m'ont eu, ces négros ils m'ont eu. Si j'avais su, j'aurais écouté mes vieux. Je fais scène crue, ce négro je fais scène crue. Si j'avais su, j'aurais évité ces notes.
Tu es validé, oublie toute ta vanité. Accepte originalité, écoute tes pluralités. Pourquoi cherches-tu à être validé? Oublie toute ta vanité, accepte originalité, écoute tes pluralités. Pourquoi cherches-tu à être validé? Oublie toute ta vanité, accepte originalité, écoute tes pluralités. Pourquoi cherches-tu à être validé? Oublie toute ta vanité, accepte originalité, écoute tes pluralités. Pourquoi cherches-tu à être validé? Oublie toute ta vanité, accepte originalité, écoute toutes tes qualités.
Donnez-la, changer, il fallait sur Canal B. Retour à l'EREA Magda Hollander Lafond de Rennes, où les élèves reçoivent Insa Sané, musicien, slammer, écrivain.
Pourquoi ça t'intéresse pas la musique classique, l'opéra? Pourquoi?
Bah, parce que j'ai jamais voulu écouter vraiment ce sorte de musique. J'ai plus l'habitude d'écouter du rap, hip-hop, les trucs comme ça que des trucs classiques.
D'accord. Est-ce que tu sais que dans le rap, on a samplé beaucoup la musique classique? Il ouais. Y a un rappeur qui s'appelle Exhibit. Son morceau le plus connu, c'est un sample d'opéra. J'ai la chance aussi, sur mon prochain album, il y a les Sœurs Berthollet qui jouent qui font deux morceaux avec moi et qui viennent de l'opéra. En fait, en réalité, c'est pas que t'aimes pas, c'est que tu connais pas.
Ouais, voilà.
C'est ça le truc. Et c'est comme tout, tant qu'on te connaît pas, on se dit ouais, je suis pas légitime à écouter, oh c'est galère. Mais en fait, une fois que tu commences à écouter, il y a une variété énorme dans l'opéra. Tout n'est pas bon, hein.
On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Net et tout autour du cou comme Cosette pour Hugo. Être entré I dans le conflit et prier le très haut. Fils du C-O-N-G-O, cette N-G-O-M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver de déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Comme les livres, en fait, tu commences à aimer les livres quand tu as découvert un livre que tu as trouvé génial. Et c'est à ce moment que tu te dis « Ah ouais, mais je veux trouver un autre livre aussi génial » et tu commences à fouiller. C'est comme ça que tu apprends à lire et que tu apprends à aimer lire. Mais si tu n'as pas l'habitude, si tu n'as pas de livre chez toi, si tu n'as jamais, si tu n'es pas familiarisé avec ça, ça ne t'intéresse pas et c'est normal. Et c'est vraiment normal. Et on peut parler de cinéma avec Julia. Dis-moi, tu vas souvent au cinéma?
Non, très rarement.
Très rarement? Mais t'as déjà vu un film qui t'a marqué?
Comment ça, marqué?
Ton film préféré, ce serait quoi ton film préféré?
Que j'ai vu au cinéma ou...
Au cinéma ou à la télévision ou peu importe où, mais que t'as vu et qui t'a marqué, que t'as beaucoup aimé?
Bad Boys.
Bad Boys avec Will Smith? Parce que c'est drôle, c'est pour ça?
Non, même en soi, genre tout, genre j'ai suivi l'histoire, tout ça, genre j'aime bien.
L'intrigue et tout, t'aimes tout ça? Vas-y.
Alors, Insa Sané, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous avez de l'inspiration pour créer un autre livre?
C'est mon métier, donc j'attends pas l'inspiration, je suis obligé d'écrire un autre livre, sinon j'arrête de manger, hein. Sinon j'ai plus d'argent. Donc j'ai toujours un coup d'avance. J'ai toujours deux ou trois coups d'avance dans ce que j'écris. Je me projette, je fais beaucoup de recherches avant d'écrire un livre. Je fais énormément de recherches. Je fais des recherches sur les lieux, sur les gens, les personnages que je vais mettre dans le livre. Je veux qu'ils aient l'air réels. Je vais faire des recherches sur certains sujets. Dans ma carrière, j'ai pu travailler sur certains livres qui parlent de psychologie, même si en réalité, ça parle de psychologie, mais on le lit comme un très bon roman. Je fais pas un essai sur la psychologie, je suis pas assez bon pour ça, mais je suis obligé de me renseigner pour voir comment, quel est le fonctionnement du cerveau et pourquoi certains caractères, pourquoi il y a certains phénomènes chez certains humains. Donc, t'es obligé de te renseigner, t'es obligé de lire d'autres bouquins, t'es obligé d'interviewer des personnes, des spécialistes. J'ai dû aller pendant un moment au 36 Quai des Orfèvres, interroger les gens de la brigade des stupéfiants parce que je voulais écrire. J'ai écrit deux romans policiers avec des agents des stupéfiants, enfin où je parle de personnes qui sont de ce milieu-là, qui sont des policiers, des agents des stupéfiants. Il faut que connaître leur truc pour pas raconter n'importe quoi et pour pas fantasmer, même si j'écris des fictions, mais on part toujours d'une forme de réalité. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben je fais un plan. Et après, des fois, je suis pris parce que j'ai un contrat honoré, j'ai un scénario à rendre, etc. Mais je sais que j'ai ça et je travaille sur ça et que bientôt je vais commencer à écrire. Là, j'ai trois livres en chantier pour les prochains mois, voire les prochaines années, en plus des autres des spectacles que j'essaye d'écrire aussi.
Et du coup, ma deuxième question, c'est y a un préjugé qu'on entend beaucoup, c'est que les Nords ont plus de force et plus d'endurance que les autres, comme par exemple Usain Bolt.
Comme Usain Bolt qui court plus vite, etc. Alors, il y a du vrai et il y a du faux. On a tous nos petites différences et nos spécialisations parce que nos communautés humaines se sont spécialisées. C'est-à-dire que quand on a vécu dans un environnement, un truc tout con, pourquoi t'es blanc ?
Je vois.
Parce que t'as vécu dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil et que ta peau s'est adaptée à l'absence de soleil. Donc ta mélamine, ta peau a blanchi pour pouvoir capter le maximum de lumière. C'est comme les yeux bleus. En Afrique, au Cameroun, au Congo, t'as plein de noirs avec des yeux bleus. Pourquoi ? Parce que dans certains endroits, quand on vit dans la forêt, il y a pas beaucoup de lumière. Donc tes yeux, ils doivent capter le maximum de vitamine A et donc ils vont s'éclaircir. C'est juste ça. Donc il y a une adaptation qui est réelle. Après, la deuxième chose, c'est que tu prends une réalité, hein. Ça c'est vrai, hein. La plupart des Noirs ils savent pas nager, hein. Ça c'est une réalité, mais c'est pas parce qu'ils ont peur de l'eau, c'est simplement que la masse musculaire des populations mélaminées est moins importante que la masse musculaire que la plupart des personnes non mélaminées. Donc ce qui fait que on flotte tout simplement moins bien. On doit fournir plus d'efforts pour flotter. D'accord. Donc ça veut pas dire qu'on va nager moins vite, hein, mais il nous faudra produire plus d'énergie pour nager aussi vite, voire plus vite qu'un non mélaminé. Mais ce sont des spécialisations, c'est juste des spécialisations, c'est dû aux environnements dans lesquels on vit. Je voyage depuis que j'ai 16 ans, et comme j'ai tout le temps ma valise, sur ma main, j'ai des cloques maintenant. Sur ma main droite, j'ai des grosses cloques qui font que avant, quand je commençais mes voyages, j'avais super mal aux mains à force de trimballer les trucs. Mais aujourd'hui, je porte mes valises, même si elles sont lourdes, j'ai plus mal quand je les tire. D'accord? Et ça, si moi je le fais, que mon fils vit de la même manière, que son fils vit de la même manière, à un moment donné, ça va s'inscrire dans nos gènes et les bébés, des futures générations, mes descendants, vont naître directement avec des cloques parce qu'ils seront déjà préparés à porter des valises et à avancer comme ça. Tu comprends? Mais c'est pas, il y a une absurdité. Faut juste comprendre que tous autant que nous sommes issus des mêmes gènes, sauf qu'on s'est spécialisé. Nos couleurs, nos variations de couleurs sont déterminées à cause des environnements dans lesquels on vit, auxquels on est contraint. Tu comprends ?
Ouais.
On prend un pays comme le Sénégal. C'est un pays, il est plat. Il est affreusement plat. Et quand t'as une colline, les Sénégalais disent « Ah, je vais à la montagne », alors que c'est une colline, quoi. Et j'en dis « Mais vous avez jamais vu de montagne ?»« Si, ça, c'est une montagne. » Et quand je leur montre le Mont Blanc, quand je leur montre les Alpes, ils disent « Waouh, c'est quoi ça ?» Tu vois, là, il y a de la neige et tout. Ça, c'est pas une montagne, c'est une colline. Donc, il y a aussi ces habitudes de marcher longtemps. Le marché, le fait de pouvoir marcher longtemps. Mais si ça se trouve, si on revient au Moyen-Âge, en Europe, on marchait beaucoup, énormément. On voit souvent les gens à cheval, mais pour avoir un cheval, il fallait avoir du fric. La plupart des gens marchaient. Quand ils allaient en pèlerinage, ils marchaient longtemps. Donc ça veut dire qu'à l'époque, ils devaient aussi s'adapter à ça et donc pouvoir contrer cet acide-là grâce à leur façon de vivre. Mais effectivement, aujourd'hui aussi, nos corps sont en train de se transformer par nos modes de consommation aussi. Le fait d'être tout le temps sur des écrans, eh ben ça crée aussi des mutations. Ça crée notamment une mutation qui est très simple. Il y a, tu vois, le fait d'être somnolent, le fait aussi, ça abîme les yeux, ces écrans-là, c'est réel que ça abîme les yeux. Et puis, ça crée aussi une réaction à l'ennui, parce que on est tout le temps en train de switcher, donc on ne se concentre pas, on ne se fixe pas sur une seule chose, et ça va forcément avoir des répercussions sur notre métabolisme, d'accord ? Donc tout ce qu'on fait dans la vie, même la nourriture, a des incidences sur nous. Un exemple simple, quand j'étais petit, je disais à ma mère, « Maman, quand je mange des légumes, je me sens mal. » Je suis malade. Elle me dit, ah, arrête de faire des caprices, c'est pas vrai, mange tes légumes. Et puis, tardivement, bah, il y a des médecins qui ont su qu'en réalité, bah, tout le monde n'est pas fait pour manger des légumes parce que on n'assimile pas assez bien les fibres et les enzymes. Et pourquoi? Parce que, et c'est su, et ma mère, elle le sait, je viens d'une caste, d'une famille de chasseurs. Donc, on bouffe de la viande et du riz. Basta. Donc on bouffe pas des racines, des légumes, etc. Donc de génération en génération, en ayant cette nourriture là, et ben ça fait qu'on est moins, on assimile moins les légumes parce que c'est nouveau. C'est comme le lait, les gens qui ont pas l'habitude de boire du lait, quand ils en boivent adultes, et ben ils sont malades, ça les rend malades. Donc c'est tout ça. Donc ça participe réellement pas à la couleur de peau. La couleur de peau, c'est qu'une façade. Et d'ailleurs, vous verrez très bien, il y a des noirs qui ressemblent. Tu leur retires le truc, on dirait un blanc, tu vois. Et il y a des blancs, tu les regardes, tu dis, mais toi, t'as des grosses lèvres de noir, tu vois. Donc voilà. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que si tu prends toutes les générations, toi, t'as des gènes africains. Moi, il y a de grandes chances pour que j'ai pas de gènes occidentaux, caucasiens, on va dire, tu vois. Mais toi, c'est sûr que t'as des gènes africains, tu vois. Donc, et puis, il y a les mélanges. On s'est beaucoup, beaucoup mélangé. Votre copine Julia, elle est bien passée pour savoir quand on parle de mélange, tu vois. Donc, et ça, des Julia, il y en a eu depuis la nuit des temps, ces mélanges-là. D'accord. Donc c'est pas ce qui participe réellement à savoir, c'est pas la couleur de peau qui va déterminer que tu vas courir vite, que tu vas machin. C'est l'environnement et ton modèle de vie et ta masse musculaire et comment ton corps s'est adapté.
Vous avez un pilier dans votre vie? Quelqu'un qui vous soutient, et vu que votre père n'est pas là, quelqu'un qui vous soutient et qui vous encourage.
Ah, alors j'en ai eu, mais bizarrement, il meurt vite. Il meurt beaucoup en ce moment. J'ai eu mon prof d'économie, Monsieur Fivé, qui m'a tout le temps encouragé, qui a tout le temps été fier de moi. Même quand je faisais des bêtises au lycée, c'était mon prof au lycée. Et j'étais un petit con, faut le dire. Avant, il y avait un truc qui s'appelle la bourse aux livres au début de l'année scolaire, où les gens qui sont en terminale vont vendre leurs livres qu'ils vont plus utiliser aux classes de première, et les classes de première vendent leurs livres aux classes de seconde. Quand j'étais en seconde, j'ai attendu la fin de l'année Et j'ai racheté, comme les gens sont contents, ah, je passe en première, ah, je passe en terminale, ah, je vais à la fac. Je leur dis, bah, t'en auras plus besoin, tiens, je te le rachète. Et je l'ai racheté à 5 francs, 8 francs. À l'époque, c'était en francs. Considérez que c'est 8 euros, 5, même pas 8 euros. Je les ai achetés à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Et puis, donc, j'ai gardé tous les livres avec mes potes, on les a gardés chez nous. Et puis, le jour de la bourse des livres à la rentrée, tout le monde cherchait des livres. Et on les avait tous. Et on les revendait très, très cher. Et puis, on a été en permanence avec plein de billets. Et on faisait des liasses. On les comptait en permanence en riant. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'il y a des mecs qui étaient malheureux parce que normalement, la bourse des livres, c'était pas fait pour qu'on se fasse du pognon. C'était un truc de solidarité. Et puis, le prof d'économie, monsieur Févé, il ouvre la porte de la permanence. Il me voit avec mes potes en train de compter les billets. Et là, il me regarde, déçu, il me dit « Ah ouais, c'est ça ce que je vous ai appris en cours d'éco, à être des monstres pour vos camarades. » On a eu tellement honte qu'on a arrêté de les compter. Et il y a des personnes à qui on a rendu, on leur a filé les livres et en leur rendant l'argent. Et puis voilà quoi. C'est ce genre d'hommes qui m'ont aussi façonné, qui m'ont encouragé. Mais malheureusement, il est décédé... Il est décédé il y a 2 ans maintenant et puis maintenant ceux qui m'encouragent bah ça va être mes enfants, ça va être ma petite amie, ça va être aussi certaines personnes avec lesquelles je travaille, mes certains éditeurs, certains musiciens, certains producteurs qui vont m'encourager, qui vont me pousser à aller très loin dans ce que je fais et à pas me décourager surtout.
Je disais que vous avez l'âge de dire petite amie.
Pierre, je te jure, merci de l'agisme. Et pourquoi j'aurais pas une petite amie sexy en plus? Ah, si tu la voyais, elle est plus bonne que la plus bonne de tes copines. Que je dise à 50 balais que j'ai une petite amie, bah si j'ai une petite amie.
Non,
parce que j'aurais dû dire une femme, une compagne. Gna gna, mais si je suis pas marié avec elle, c'est ma petite amie. Ma petite amie depuis des années déjà.
Notre émission est maintenant terminée.
Merci de nous avoir écoutés.
C'était les élèves de l'EREA Magda Onlender Lafond de Rennes sur Canal B.
Aussi, nous tenions à remercier nos professeurs qui étaient présents et nous ont accompagnés durant ce projet. Merci à Madame Bellamy, à Madame Cadeau, à Madame Gatron et à Madame Dezavi. Et à Insa Sané surtout pour votre présence. Merci beaucoup.
Et bien sûr, moi je vais remercier également nos 3 participants, vos camarades de classe aussi, Abdelrahman, Youssouf et Mohamed. J'ai été ravi de participer à ce projet et j'ai été ravi d'être interviewé par vous.
Passez une bonne journée, au revoir. Julia,
Winner, Raïm,
Deki,
Lorraine,
Johan,
Diwan,
Ebony,
Nolan.
C'était très bien, hein, c'était vraiment très bien, très très bien.
Bah, ce que j'ai pensé de ce projet-là, je pensais pas qu'on va arriver jusqu'à là, parce que pour moi, je pensais pas que je vais arriver jusqu'à là, parce que j'ai des difficultés dans la lecture. En ça, c'était sympa, c'était agréable. On a parlé, on a posé des questions, ils ont parlé, c'était cool. La journée s'est bien passée, on a proposé des idées, nous tous, et c'était bien, c'était agréable.
Vas-y, continue, c'est moi qui règle.
J'ai une voix de mec de radio ou pas, madame?
De crooner, t'as une voix de crooner.
Vous êtes en train de régler la table son, c'est ça?
Exactement.
C'est parti, continuez DJ. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien sur Canal B, la radio présentée par Nolan Saint-Oja.
Toi là, t'es bon là. Super bien, c'est ça ce que je veux entendre.
Ça fait beaucoup de modifications.
T'as compris.
Lâche-toi. C'est ça, lâche-toi.
T'as juste à repérer où est le titre. Comme ça tu te plantes pas dans le titre.
C'est pas grave, tu t'as fait là, c'était très bien. En plus c'était naturel, refais comme t'as fait, naturel. C'était naturel.
Elle a besoin de m'engueuler.
Je sais. T'es un punching ball.
Vas-y. Elle a tel sourire, ça va être super.
Ouais, grave. Reste avec le sourire, c'est ça ce qu'on veut.
Un âge difficile.
Assez fréquent chez les préadolescents. Elle en a tous les symptômes. Hyperactivité,
saute d'humeur.
Écoute, je suis occupée à profiter de mon adolescence, alors fiche-moi la paix et fais la même chose.
Oui, mais parfois on change à l'adolescence.
Les ados, ça se lève pas tôt, normalement.
Il y a tout du monde merveilleux des adolescentes.
C'est un miracle. Un adolescent qui dit non à la drogue et oui à l'instruction, c'est un miracle.
So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques des Canal B.